Les mille et une nuits, tome 9, chapitre 5, première partie, histoire d'Alaeddin. Il y avait autrefois en Égypte un marchand nommé Shamseddin qui faisait un commerce fort étendu et qui jouissait du plus grand crédit par son exactitude à tenir sa parole. Il possédait d'immenses richesses, avait un grand nombre d'esclaves à son service et tenait le premier rang parmi les négociants du Caire qu'il avait choisi pour leur syndic. À tous ces avantages, Shamseddin joignit celui d'avoir une épouse qu'il aimait beaucoup, qui le payait du plus tendre retour. Mais quoiqu'ils fussent mariés depuis plus de 20 ans, ils n'avaient point encore eu d'enfant. Cette privation affligeait sensiblement Shamseddin. Il s'en prenait secrètement à sa femme, mais il n'avait jamais osé lui adresser sur cela le moindre reproche. Un jour qu'il était assis dans son magasin, et qu'il regardait ses voisins qui avaient tous plus ou moins d'enfants, il sentit plus vivement le chagrin de ne pas en avoir et se trouva par conséquent plus indisposé contre son épouse. C'était un vendredi. Shamseddin se rendit au bain et, après s'être baigné, il se fit parfumer, raser la tête et arranger la barbe comme il avait coutume de faire tous les vendredis. Tandis qu'il était entre les mains du garçon de bain, il prit le miroir et se mit à considérer sa figure. Sa barbe, qui commençait à grisonner, augmenta le chagrin qu'il éprouvait de se voir sans enfant. Il s'en retourna chez lui avec beaucoup d'humeur. L'épouse du marchand, qui savait l'heure où il devait rentrer, avait eu l'intention de se baigner aussi et de se parer de ses plus beaux habits pour le recevoir. Quand il rentra, elle s'avança vers lui avec empressement et lui souhaita le bonsoir. Mais il la reçut fort mal, et lui dit qu'il n'avait pas besoin de son bonsoir. Interdite d'un accueil aussi froid, elle fit servir le souper et le pria de se mettre à table. « Je ne veux rien manger, » répondit-il. En même temps, il repoussa du pied la table où le souper était servi. « Pourquoi donc, lui dit-elle, ne voulez-vous pas souper? Et quel sujet vous donne tant d'humeur aujourd'hui? « Vous-même, » répondit le marchand avec aigreur. « Ce matin, en ouvrant mon magasin, j'ai vu tous les marchands nos voisins entourés de leurs enfants, et je me suis dit en moi-même, j'ai été bien bon de jurer à ma femme, la première nuit de nos noces, que je n'en épouserais point d'autre qu'elle, qu'aucune esclave ne deviendrait sa rivale, enfin, que je ne passerais jamais une nuit hors de chez moi. Je ne prévoyais pas alors que ma femme serait stérile et ne me donnerait jamais d'enfant. « Qu'appelez-vous stérile ? » lui répondit la femme en colère. « C'est plutôt vous qui ne pouvez avoir d'enfant. » Le marchand, étonné de cette repartie et du ton d'assurance avec lequel elle fut faite, commença à concevoir quelques soupçons sur ce qui le concernait et dit à sa femme. Serait-il possible, et n'y aurait-il pas en ce cas quelque spécifique qui pût me faire avoir des enfants? Je suis prête à l'acheter, quel qu'en soit le prix, et à en faire l'essai. Je crois, lui répondit sa femme, qu'il y a de ces spécifiques, et vous en trouverez, je pense, chez les apothicaires. Le marchand passa toute la nuit à réfléchir sur ce que sa femme venait de lui dire. Ils étaient tous deux intérieurement fâchés des reproches qu'ils s'étaient adressés mutuellement. Le mari se leva de grand matin et se rendit au marché. Étant entré chez un apothicaire, il le salua et lui demanda s'il avait quelque drogue qui eût la propriété de faire avoir des enfants. « J'en avais il n'y a pas longtemps, » lui répondit l'apothicaire, « mais je n'en ai plus, j'ai tout vendu. » « Si vous voulez vous donner la peine de passer chez mon voisin, peut-être aura-t-il ce que vous cherchez. » Le marchand alla de boutique en boutique, répétant sa demande à chaque apothicaire qu'il rencontrait. Mais tous lui rirent au nez et se moquèrent de lui. Voyant que sa course était inutile, il revint s'asseoir dans sa boutique, le cœur accablé de tristesse. Le chef des courtiers, homme adroit et rusé, nommé Cheikh Mohammed, l'ayant aperçu, le salua et lui demanda la cause de l'abattement où il le voyait plongé. Le marchand lui raconta la conversation qu'il avait eue la veille avec sa femme et se plaignait beaucoup de ce qu'étant marié avec elle depuis plus de 20 ans, il n'en avait point encore eu d'enfant. « Elle prétend que c'est ma faute, ajouta-t-il, et m'a fait chercher toute la matinée une drogue qui est la propriété de faire avoir des enfants. Mais il m'a été impossible d'en trouver. J'ai votre affaire, dit Mohammed. « Mais quelle récompense donnerez-vous à celui qui pourra vous procurer le bonheur d'être père après plus de 20 ans de mariage ?»« Comptez, » répondit le marchand, sur toute ma reconnaissance et sur ma générosité. » Cheikh Mohammed lui demanda préalablement un sequin, et au lieu d'un, le marchand lui en présenta deux. Mohammed prit alors un grand vase dans lequel il mit de la cannelle, du girofle, du cardamome, du gingembre, du poivre blanc et quelques autres drogues. Il y joignit de la poudre de crocodile de montagne, et ayant broyé tout cela ensemble, il le fit bouillir dans d'excellentes huiles d'olive. Et prit ensuite trois onces d'encens mâle et une petite mesure d'une certaine graine noire. Il mêla le tout avec du miel et en fit une espèce de pâte qu'il renferma dans le vase. Il présenta le vase au marchand et lui dit de faire usage de ce qu'il contenait en guise de beurre frais, après avoir mangé de la viande de mouton et des pichons domestiques. « Vous aurez soin, ajouta-t-il, de boire un grand verre de vin par-dessus. » Le marchand, résolu de suivre exactement ce conseil, apporta à sa femme du mouton et des pigeons qu'il la pria de faire cuire pour le souper, et lui remit le vase qui renfermait la drogue que Mohammed avait préparée en lui recommandant d'en avoir grand soin. Le soir étant venu, on servit le souper. Le marchand, après avoir fait honneur au mouton et aux pigeons, demanda le vase qu'il avait apporté, mangea au grand étonnement de sa femme presque tout ce qu'il contenait, et but par-dessus un grand verre de vin de Chypre. Après ce souper, le marchand et sa femme se mirent au lit. Au bout de quelques mois, la femme du marchand s'aperçut qu'elle était enceinte. Le moment de ses couches étant arrivé, on appela une sage-femme qui la délivra heureusement d'un beau garçon. La sage-femme, en bonne musulmane, n'oublia pas, en détachant l'enfant, de prononcer le nom d'Ali et de Mahomet, et lui cria ensuite de toutes ses forces dans les oreilles « Allah Akbar !» et le donna à sa mère, qui lui présenta le sein. L'enfant le prit très bien, téta longtemps et s'endormit. Au bout de 3 jours, la femme du marchand fut en état de se lever. Le marchand entra dans l'appartement, félicita son épouse sur sa convalescence et voulut voir l'enfant. Quand on le lui présenta, il fut surpris de sa beauté et de sa force, car, quoiqu'il n'eût que 2 jours, on aurait dit en le voyant que c'était un enfant d'un an. « Quel nom lui avez-vous donné ? » dit le marchand à sa femme. « Si c'était une fille, répondit-elle, je lui en aurais déjà donné un, mais puisque c'est un garçon, c'est à vous à le nommer. » C'était alors la coutume de donner aux enfants les noms qu'on entendait prononcer par hasard. Le marchand ayant entendu dans ce moment quelqu'un crier dans la rue « Monsieur Alaeddin !» il dit qu'il voulait appeler son fils Alaeddin. Et lui donna ensuite le surnom d'Aboul Shamat, à cause d'un signe que l'enfant avait sur chaque joue. Le petit Alaeddin ne connut pendant 2 ans et demi d'autre nourriture que le lait. Il marcha de bonne heure et devenait de jour en jour plus fort et plus vigoureux. Plus il profitait, plus son père, qui l'aimait à l'excès et qui était un peu crédule, craignait qu'il ne lui arrivât quelque accident. Il appréhendait surtout pour lui les regards malins des envieux. Pour l'y soustraire, il résolut de le faire élever dans un souterrain et de ne l'en laisser sortir que quand sa barbe serait entièrement poussée. En conséquence, il le remit entre les mains d'une esclave et d'un vieux serviteur qu'il chargea d'avoir soin de lui, de l'amuser et de lui donner tout ce qu'il était nécessaire. Quand Alaeddin eut atteint l'âge de 7 ans, son père le fit circoncire et fit venir un savant pour lui apprendre à écrire, lui expliquer le Coran et l'initier dans les sciences. Le jeune Alaeddin se livra dans sa retraite avec application à l'étude et fit de grands progrès. Le vieux serviteur ayant un jour oublié de fermer après lui la porte du souterrain, Alaeddin, profitant de cette occasion, monta les degrés et entra par hasard dans l'appartement de sa mère où il y avait ce jour-là un grand cercle de dames de la première distinction. À l'apparition de ce jeune homme, qui s'avançait comme un esclave ivre, ces dames baissèrent promptement leur voile et dirent à sa mère « Comment, madame, pouvez-vous laisser rentrer ici cet insolent au mépris de la pudeur et des lois sacrées du prophète ?»« Mesdames, leur répondit-elle, ce jeune homme est mon fils. C'est le fils de mon mari, Shemseddin, syndic des marchands de cette ville. »« Mais, madame, répliquèrent-elles, jamais nous ne vous avons conduit d'enfant. » »« Mon mari, répondit l'épouse du marchand, craignant pour son fils les regards funestes de l'envie, l'a fait élever jusqu'à présent dans un souterrain, d'où il vient de s'échapper je ne sais comment, car notre intention était de l'y tenir enfermé jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge viril. » Les dames, Satisfaites de cette réponse, la félicitèrent de tout leur cœur d'avoir un si bel enfant. Le jeune homme, étant sorti de l'appartement de sa mère, entra dans la cour intérieure de la maison, et ayant aperçu plusieurs esclaves qui mettaient une mule à l'écurie, il leur demanda quelle était cette mule. Un de ses esclaves lui dit que c'était la mule de son père, sur laquelle il l'avait conduite à son magasin, et qu'il la ramenait à l'écurie. Alaeddin demanda avec vivacité quel était l'état de son père. Et le même esclave, lui ayant appris qu'il était le syndic des marchands du Caire, il courut chez sa mère et lui fit la même question. « Mon fils, lui répondit-elle, votre père est le syndic des marchands du Caire et le prince des Arabes de ce pays. À la tête de son magasin est un esclave qui ne le consulte que sur le prix des marchandises qui excède la valeur des 1000 pièces d'or. Il a la liberté de vendre à sa fantaisie toutes celles qui sont d'un prix inférieur. Aucune marchandise étrangère, de quelque qualité qu'elle soit, ne peut entrer dans ce pays sans passer entre les mains de votre père. C'est lui seul qui en règle la destination, et aucun ballot ne saurait sortir de cette ville sans sa permission. L'étendue de son commerce et la confiance dont il a su s'environner lui ont procuré des richesses incalculables. « Dieu soit loué, s'écria Alaeddin, de m'avoir donné pour père un homme aussi distingué. Mais, madame, pourquoi donc m'avez-vous fait élever dans un souterrain et m'y avez-vous laissé renfermer si longtemps ?»« Nous ne vous y avons placé, mon cher fils, lui répondit sa mère, que pour vous soustraire à la maligne influence des regards des méchants, car ce qu'on dit des funestes effets de cette influence n'est que trop véritable. C'est elle qui conduit tant de personnes au tombeau. » « Ma mère, reprit Alaeddin, il n'y a point d'asile qui puisse soustraire les hommes au décret de la Providence, et ce qui est écrit dans le ciel doit nécessairement arriver. Nous sommes tous destinés à mourir. Mon père, plein de santé aujourd'hui, peut nous être enlevé demain. Et si je veux prendre sa place, les marchands pourront-ils ajouter foi à mes paroles quand je leur dirai « Je suis Alaeddin, fils de Shemseddin. » Ne m'objecteront-ils pas, avec raison, que jamais ils ne lui ont connu d'enfant ? Et le trésor public ne viendra-t-il pas me dépouiller de tous les biens de mon père ? Promettez-moi donc, madame, d'engager mon père à me prendre avec lui et à me lever une boutique et à m'initier dans tous les détails du commerce. » La mère d'Alaeddin promit à son fils d'employer le crédit qu'elle avait sur l'esprit de son mari pour l'engager à souscrire à la demande qu'il venait de faire. Le marchand étant rentré sur ses entrefaites, ayant trouvé son fils dans l'appartement de sa femme, demanda à celle-ci pourquoi elle l'avait fait sortir du souterrain. « Ce n'est pas moi, répondit-elle, qui l'ai fait sortir. L'esclave chargé de le servir a oublié de fermer la porte. Votre fils est sorti et est monté chez moi dans un moment où j'étais en grande compagnie. » Après cette explication, la femme du marchand l'informa de la conversation qu'elle venait d'avoir avec son fils. Le marchand promit de l'emmener le lendemain avec lui et lui recommanda de faire attention à la manière dont se traitent les affaires et à étudier la politesse en usage parmi les marchands. Alaeddin, au comble de la joie, attendit le lendemain avec impatience. Son père le conduisit au bain dès le matin et lui donna un habillement magnifique. Après le déjeuner, il le fit monter sur une mule et prit avec lui le chemin du quartier des marchands. En voyant passer leur syndic, suivi d'un beau jeune homme qu'ils ne connaissaient pas, les marchands se mirent à jaser sur son compte et à concevoir la plus mauvaise opinion de ses mœurs. « Notre syndic, disait-il, n'a-t-il pas de honte de se conduire ainsi à son âge ?» Le Naquib, ou chef des marchands, qui jouissait d'une grande considération parmi eux, leur dit aussitôt « Nous ne devons pas souffrir qu'un homme qui s'affiche ainsi publiquement soit désormais notre syndic. » Les marchands avaient alors coutume de se réunir tous les matins dans le marché où leur Naquib leur lisait le premier chapitre de l'Alcoran et de se rendre au magasin de leur syndic auquel ils souhaitaient le bonjour après lui avoir fait une seconde lecture de ce même chapitre. Ils se séparaient ensuite, et chacun retournait à ses affaires. Shemseddin, étant entré dans son magasin, et ne voyant point venir les marchands comme à leur ordinaire, appela le Naquib et lui en demanda la raison. « Tous les marchands, lui répondit le Naquib, sont décidés à vous déposer de votre charge de syndic, et c'est pour cela qu'ils ne viennent pas vous lire le chapitre d'usage. »« Quelle raison, reprit vivement Shemseddin, peut les porter à me faire cet affront ?» « Ce jeune homme qui vous accompagne, répondit le Naquib, a blessé le regard. Vous êtes déjà sur l'âge, et vous occupez le premier rang parmi les marchands. Ce jeune homme n'est point un esclave et n'appartient point à votre femme. Vous avez tort de lui marquer publiquement tant d'affection. »
« Que dis-tu, malheureux ? » s'écria Shemseddin. « Tu oses ainsi parler de mon fils ?»«
Mais, dit le Naquib, jamais nous ne vous avons connu d'enfant. » « C'est, reprit Shemseddin, parce que je redoutais pour lui les regards funestes des envieux, et que je l'ai fait élever dans un souterrain. Mon intention n'était point de l'en faire sortir avant que sa barbe ne fût entièrement poussée, mais sa mère n'a voulu l'y retenir davantage. Et hier, elle m'a pressé de lui lever une boutique et de lui apprendre le commerce. » Le Naquib, ayant entendu ces paroles, s'empressa de réunir les marchands et de venir avec eux devant le syndic pour lui lire le chapitre d'usage. Ils le félicitèrent tous sur ce qu'ils venaient d'apprendre au sujet de ce jeune homme et firent des vœux pour la prospérité du père et du fils. Un d'entre eux, s'adressant à Shemseddin, lui dit que les pauvres, à la naissance d'un garçon ou d'une fille, avaient coutume d'inviter, en signe de réjouissance, leurs parents et leurs amis à venir manger la bouillie avec eux. Shemseddin comprit ce que voulait dire le marchand et répondit que son intention était aussi de les réunir tous dans l'un de ses jardins. Il fit en conséquence meubler, le lendemain matin, une salle basse et un appartement au premier dans son jardin, où il fit porter tout ce qui était nécessaire pour un grand festin. Il ordonna de dresser deux tables, l'une dans la salle basse et l'autre dans l'appartement du premier. Et ayant pris sa ceinture et ordonné à son fils de prendre aussi la sienne, il lui dit « À mesure que les vieillards entreront, je les recevrai et je les ferai placer à la table qui est au premier. Pour vous, mon fils, ayez soin de recevoir les jeunes gens à mesure qu'ils se présenteront. Faites-les placer à la table qui est dans la salle basse. « Pourquoi donc, mon père ? » dit Alaeddin. « Avez-vous fait préparer deux tables, l'un pour les pères et l'autre pour les enfants ?»«
C'est que les jeunes gens, répondit Shemseddin, seront plus libres étant seuls, et que les hommes seront bien aises de se retrouver tous ensemble. »
Alaeddin, satisfait de cette réponse, s'empressa d'exécuter les ordres de son père et de faire les honneurs de la salle des jeunes gens. Le repas fut servi avec magnificence et profusion, et les convives s'y amusèrent infiniment. Après qu'on eut pris le sorbet et brûlé des parfums, les vieillards se mirent à converser sur divers sujets d'histoire et de littérature. Pendant la conversation, un marchand nommé Mahmoud al-Bahri, dévot à l'extérieur, mais impie et libertin au fond de l'âme, descendit dans la salle où étaient les jeunes gens. Il y vit Alaeddin, fut frappé de sa bonne mine et conçut pour lui une passion honteuse. Il fit en même temps réflexion qu'il ne pourrait faire connaissance avec ce jeune homme tant qu'il serait chez son père, et résolut de lui inspirer le dessein de voyager, se promettant bien de suivre ses pas et de chercher l'occasion de se lier avec lui. Alaeddin, ayant été obligé de sortir pour quelques instants, Mahmoud al-Bahri profita de cette occasion, s'adressa aux jeunes gens et leur dit que s'ils pouvaient déterminer Alaeddin à voyager avec lui, il ferait présent à chacun d'eux d'un habillement magnifique. Les jeunes gens ayant accepté sa proposition, il les quitta et fut rejoindre sa compagnie. Alaeddin étant rentré, tous les jeunes gens allèrent à sa rencontre, et l'ayant fait asseoir au milieu d'eux, ils se mirent à parler de commerce. Un d'entre eux, adressant la parole à celui qui était assis à côté de lui, lui demanda comment il s'était procuré les fonds dont il était actuellement possesseur. « Lorsque j'eus atteint l'âge de puberté, répondit le jeune homme à qui cette question était adressée, je pressai mon père de m'acheter des marchandises. Mais, comme il ne pouvait rien m'avancer, il me dit de m'adresser à un négociant de ses amis, de lui emprunter 1000 pièces d'or, de les convertir en marchandises et de m'appliquer à acquérir toutes les connaissances qui peuvent faire réussir dans le négoce. Je suivis son conseil. Je m'adressai à un marchand qui me prêta 1000 pièces d'or avec lesquelles j'achetai des étoffes et je partis pour la Syrie. J'y vendis mes marchandises avec assez de bonheur, car je gagnais 200%. Voyant mon capital doublé, je pris des marchandises de Syrie, que je fus vendre à Alep, où je fis encore de bonnes affaires. J'ai continué mon commerce jusqu'à ce jour, et je suis parvenu, à force de soins, à me faire un capital de 10 000 pièces d'or. Chacun des jeunes gens raconta une histoire à peu près pareille, jusqu'à ce qu'enfin le tour d'Alaeddin arriva. Vous connaissez tous, leur dit-il, mon histoire. Elle n'est pas longue. Je ne suis sorti que cette semaine du souterrain où j'ai été élevé,
et je n'ai fait qu'aller et venir du magasin à la maison et de la maison au magasin.
Vous devez, lui dit l'un des jeunes gens, avoir bien envie de voyager.
Qu'ai-je besoin de voyager, reprit Alaeddin. Ne puis-je pas rester tranquille chez moi sans me donner tant de peine?
Les jeunes gens se mirent à rire de sa réponse et le taxèrent entre eux, mais assez haut pour qu'il pût l'entendre, de couardise et de timidité.
Il ressemble, disait l'un, au poisson qui meurt hors de l'eau.
Il ne pourrait vivre s'il quittait la maison paternelle.
Il ne sait pas, disait un autre, que ce sont les voyages qui forment les hommes, qu'on ne s'instruit qu'en voyageant, et qu'un marchand qui n'a pas parcouru les pays les plus éloignés ne peut pas savoir le commerce, ni jouir dans son état d'aucune considération.
Ces railleries piquèrent si vivement à Alaeddin qu'il sortit sur le champ, les larmes aux yeux, monta sur sa mule et rentra chez lui le cœur serré.
Sa mère l'aperçut et, voyant qu'il avait l'air chagrin, lui demanda ce qui lui était arrivé.
Alaeddin rendit compte à sa mère de la conversation qu'il venait d'avoir avec les jeunes marchands, des railleries qu'il s'était permis sur son compte, et lui témoigna qu'il voulait absolument voyager. Sa mère tâcha d'abord de le détourner de ce dessein, mais voyant qu'elle ne pouvait y réussir, elle lui demanda où il avait dessein d'aller.
« Je veux, répondit Alaeddin, me rendre à Bagdad, où, selon ce que je viens d'entendre, l'on pourrait facilement doubler son capital. »
Quoique sensiblement affligée de se séparer d'un fils qu'elle aimait tendrement, la mère d'Alaeddin lui promit de parler à son père et de l'engager à lui donner une pacotille proportionnée à sa fortune. Alaeddin, déjà impatient de partir, conjura sa mère de lui donner elle-même des objets dont elle pouvait disposer et de les faire emballer sur le champ. Elle y consentit, fit venir des esclaves et les envoya chercher des emballeurs qui firent 10 ballots des étoffes qu'elle leur donna.
Cependant, Shamseddin, étant entré dans la salle basse et ne voyant pas son fils, demanda aux jeunes gens ce qu'il était devenu. Ayant appris qu'il les avait quittés brusquement et était monté sur sa mule pour retourner au logis, il fit seller sur le champ sa monture et courut après lui.
Ayant aperçu en entrant les 10 ballots, il demanda à sa femme à qui ils appartenaient. Celle-ci lui raconta ce qui était arrivé à son fils avec les jeunes marchands et le dessein où il était de voyager.
Shamseddin, se tournant alors vers son fils, lui représenta les fatigues et les dangers des voyages, et lui dit que les sages conseillaient de ne même pas s'éloigner de chez soi à la distance d'un mille.
Le jeune homme persista dans sa résolution et alla jusqu'à dire que si on ne voulait pas le laisser partir, il se ferait derviche et irait demander l'aumône de contrée en contrée.
« Je ne m'opposerai pas davantage, mon fils, à votre désir, reprit Shamseddin. Je suis bien éloigné d'être pauvre et de ne pouvoir vous fournir les moyens de voyager de la manière la plus agréable et la plus avantageuse. Je possède au contraire des richesses considérables. »
Shamseddin conduisit son fils dans tous ses magasins, où il lui montra des étoffes précieuses et des marchandises propres à chaque pays. Elles étaient renfermées dans 40 ballots, sur chacun desquels était une étiquette qui marquait que le prix de chaque ballot était de 1000 pièces d'or.
« Prends, mon fils, lui dit-il, ces 40 ballots, et les 10 que ta mère t'a fait, et pars sous la sauvegarde et la protection de Dieu. Cependant, je ne puis te dissimuler mes craintes. En allant à Bagdad, tu seras obligé de passer par la forêt du Lion et de descendre dans la vallée de Benou Kelab. Ces endroits sont très dangereux. On n'entend parler que des assassinats qui commettent tous les jours les Arabes bédouins qui infestent toutes les routes.
Alaeddin ne répondit autre chose, sinon qu'il s'en remettait à la volonté de Dieu par rapport à ce qui pourrait lui arriver. Son père, le voyant absolument déterminé, l'emmena avec lui au marché où l'on vend les bêtes de somme.
Ils y rencontrèrent un hakam, ou entrepreneur pour le transport des bagages, nommé Kemaleddin, qui n'eut pas plus tôt aperçu Shamseddin qu'il descendit de dessus sa mule et vint le saluer.
« Seigneur, lui dit-il, il y a longtemps que vous n'êtes venu nous voir et que vous ne m'avez procuré l'occasion de vous offrir mes services. »«
Chaque chose a son temps, répondit Shamseddin. Celui des voyages est passé pour moi. Mais mon fils que vous voyez a l'intention de voyager et je serais bien aise que vous voulussiez l'accompagner et lui servir de père. »
L'hakam, ayant consenti volontiers à cette proposition, Shamseddin lui remit 100 pièces d'or pour les distribuer à ses esclaves. Il acheta ensuite 60 mules et fit l'emplette d'un cierge
pour le déposer sur le tombeau du bienheureux Abdelkader Adjilan. Il recommanda à son fils d'obéir exactement à la Kam et de le regarder désormais comme son père. Étant rentré chez lui, suivi de ses esclaves et des mules qu'il avait achetées, il fit préparer un grand festin et voulut que cette soirée-là se passât dans la joie. Le lendemain matin, il fit présent à son fils de 10 000 pièces d'or et lui dit de s'en servir dans le cas où, en arrivant à Bagdad, il ne trouverait pas l'occasion de vendre ses marchandises d'une manière avantageuse. Quand les mules furent chargées, Alaeddin dit adieu à ses parents et sortit du Caire avec la Kam. Mahmoud al-Bahri, qui épiait tout ce qui se passait, avait aussi disposé de son côté tout ce qui était nécessaire pour voyager. Et le jour même du départ d'Alaeddin, il avait fait ses bagages et dressé ses tentes hors des murs de la ville. Shamseddin, qui ne se doutait pas de ses desseins perfides, lui avait fait présent d'une bourse de 1 000 pièces d'or dès qu'il avait appris qu'il se disposait à aller à Bagdad et lui avait recommandé son fils d'une manière particulière. Alaeddin et Mahmoud se rencontrèrent à quelque distance du Caire. Mahmoud avait fait dire adroitement au cuisinier d'Alaeddin de ne rien apporter pour son maître. Il profita de la circonstance pour offrir au jeune homme et à ceux qui l'accompagnaient les rafraîchissements qu'il avait lui-même fait apporter en abondance. La petite caravane, s'étant mise en marche, traversa heureusement le désert et déjà s'approchait de Damas. Mahmoud, outre la maison qu'il avait au Caire, en avait une à Damas, une troisième à Alep et une quatrième à Bagdad. Comme la caravane était campée sous les murs de Damas, Mahmoud envoya un de ses esclaves à Alaeddin pour l'inviter à venir manger chez lui. L'esclave trouva le jeune homme assis dans sa tente et occupé à lire. S'étant avancé et l'ayant respectueusement salué, il lui dit que son maître le priait de lui faire l'honneur de venir se rafraîchir chez lui. Alaeddin ne voulut point se rendre à cette invitation sans avoir auparavant consulté la Kam Kamaleddin qui lui tenait lieu de père. Celui-ci lui conseilla de n'en rien faire et de ne point interrompre leur voyage. Le docile Alaeddin partit sur le champ et arriva bientôt à Alep avec tous ses gens. Mahmoud al-Bahri, ayant rejoint la caravane, fit préparer à Alep un grand festin et envoya prier Alaeddin de s'y rendre. Le jeune homme consulta encore son guide, mais en homme prudent, il ne voulut point qu'on s'arrêtât. Ils partirent aussitôt d'Alep et marchèrent à grande journée vers Bagdad. À quelque distance de cette ville, Mahmoud envoya encore une fois un esclave à Alaeddin pour l'inviter à venir dîner chez lui. Le jeune homme en demanda la permission à son guide, qui la lui refusa positivement. Alaeddin, piqué de ce refus, voulut se rendre à une invitation réitérée tant de fois. Il s'arma de son cimetière et s'avança vers la tente de Mahmoud. Le vieux marchand le reçut de la manière la plus polie et la plus amicale et lui fit servir les mets les plus délicats. Lorsque le repas fut fini et qu'on se fut lavé les mains, Mahmoud se pencha vers Alaeddin et voulut l'embrasser. Le jeune homme le repoussa et lui demanda avec surprise l'explication d'une pareille conduite. Celui-ci balbutia quelques mots et voulut une seconde fois l'embrasser. Alaeddin, rempli d'indignation, tira son cimetière et adressa les reproches les plus sanglants au vieillard. « Scélérat, lui dit-il, j'avais tant de confiance en toi que les marchandises que j'aurais vendues à un autre au poids de l'or, je te les aurais données presque pour rien. Mais dorénavant, je ne veux plus avoir aucun commerce avec toi. » En finissant ces mots, Alaeddin s'éloigna de la tente de Mahmoud et revint vers Kamaleddin, à qui il raconta ce qui venait de se passer. Il lui dit ensuite qu'il ne voulait plus voyager de compagnie avec cet odieux vieillard. « Mon fils, lui dit Kamaleddin, je vous avais bien dit de ne point vous rendre à son invitation. Mais la résolution que vous prenez de vous séparer de lui si brusquement n'est pas sage. Car si vous le quittez, notre caravane deviendra trop peu nombreuse pour pouvoir nous rendre sans danger jusqu'à Bagdad. N'importe, repartit Alaeddin, je ne veux jamais le revoir. » Et aussitôt, il fit charger les bagages et voulut qu'on se remît en route. Lorsque la petite caravane fut descendue dans la vallée de Benou Kelab, Alaeddin donna l'ordre d'y dresser les tentes. En vain, Kamaleddin lui représenta le danger qu'il y avait à s'arrêter dans cet endroit. Il assura qu'ils avaient encore assez de temps devant eux, s'ils faisaient diligence, pour arriver à Bagdad avant qu'on en fermât les portes. Car, ajouta-t-il, on les ferme tous les soirs au coucher du soleil, et on ne les ouvre qu'au grand jour, parce que les habitants craignent sans cesse que les personnes viennent surprendre la ville et ne jettent dans le Tigre tous les livres qui traitent des sciences. Alaeddin s'obstina à rester, et répondit qu'il n'était point venu dans ces contrées simplement pour commercer, mais pour s'y amuser et voir du pays. Comme son guide lui peignait vivement tout ce qu'il y avait à craindre de la part des Arabes bédouins, il lui répondit avec fierté. « Lequel est le maître de vous ou de moi? Je ne veux entrer dans Bagdad qu'en plein jour, afin de me faire connaître des habitants et d'étaler à leurs yeux mes marchandises et mes richesses. » Kemal ed-Din ne crut pas devoir insister davantage et dit à Alaeddin. « Conduisez-vous maintenant comme vous voudrez. Je vous ai fait les représentations qu'il était de mon devoir de vous faire. Je crains que vous ne reconnaissiez trop tard la sagesse de mes conseils. » Alaeddin ordonna de décharger les mules et de dresser les tentes. Vers le milieu de la nuit, il fut obligé de se lever et aperçut quelque chose qui brillait dans le lointain. Il vint aussitôt en informer son guide et lui demanda ce que ce pouvait être. Kemal ed-Din se leva, et en examinant attentivement, il vit que cette lumière était produite par l'éclat des lances et des cimetières dont une troupe d'Arabes bédouins était armée. Ils se virent bientôt investis par les brigands qui fondirent sur eux en criant « Ô fortune, ô butin !» Kemal ed-Din leur cria de son côté « Retirez-vous, fuyez loin d'ici, infâmes voleurs, les plus vils et les plus méprisables des Arabes !» Et en même temps, il s'avança à leur rencontre. Mais le chef de la troupe, nommé le cheikh Aglan Abu Nab, lui porta un si rude coup de lance que le fer traversa sa poitrine de part en part et le renversa mort à l'entrée de sa tente. Le sakka, ou serviteur chargé d'abreuver les animaux, s'étant ensuite présenté devant les brigands, en criant pareillement et en faisant éclater son mépris pour eux, un arabe le frappa sur le cou avec son cimetière et l'étendit mort à ses pieds. Alaeddin, saisi de terreur à ce spectacle, resta immobile dans un coin de sa tente et échappa ainsi à la fureur des brigands. Les bédouins massacrèrent impitoyablement tous ces gens, rechargèrent promptement les mules, les attachèrent à la queue l'une de l'autre et s'éloignèrent. Alaeddin, ayant repris ses esprits, dit en lui-même « Les brigands peuvent revenir et ne m'épargneront pas s'ils m'aperçoivent. » Il ôta donc son habit, ne garda que sa chemise et son caleçon, et se jeta ainsi par terre au milieu du sang et des cadavres dont la terre était jonchée. Comme les bédouins s'éloignaient avec leur butin, Abu Nab leur demanda si la caravane qu'ils venaient d'attaquer venait d'Égypte ou si elle sortait de Bagdad. Quand ils lui eurent dit qu'elle venait d'Égypte, il les invita à retourner sur le champ de bataille. « Car, dit-il, je soupçonne fort que le chef de cette caravane n'est pas mort. » Les bédouins revinrent aussitôt sur leurs pas et se mirent à retourner et à frapper les cadavres avec la pointe de leurs lances. Quand ils arrivèrent auprès d'Alaeddin, un d'eux, qui s'aperçut qu'il était en vie, s'écria « Ah ah, tu contrefais donc le mort! Mais attends, je vais bientôt t'expédier !» En disant cela, il se mit en devoir de lui enfoncer sa lance dans la poitrine. Dans cet instant critique, Alaeddin, ayant adressé une fervente prière au bienheureux Abdelkader al-Jilani, aperçut une main qui détournait la lance du bédouin de sa poitrine sur celle de son guide, Kemal ed-Din al-Hakam. Le bédouin retira sa lance avec violence et revint sur Alaeddin. Mais la même main dirigea le coup sur la poitrine du sakka, et le brigand, croyant avoir frappé sa victime, rejoignit ses camarades qui s'éloignèrent au plus vite. Alaeddin, ayant levé la tête et voyant que les Arabes avaient disparu avec leur butin, se leva et se mit à courir de toutes ses forces. Abu Nab, s'étant retourné dans ce moment, s'écria « Camarade, je vois quelqu'un s'enfuit !» Un des brigands se détacha aussitôt de la bande et cria de toutes ses forces « Tu as beau fuir, je t'aurai bientôt rattrapé !» En même temps, il piqua son cheval et courut à toute bride sur Alaeddin. Alaeddin aperçut alors devant lui un réservoir d'eau près duquel était une citerne. Il grimpa vivement sur le mur de cette citerne, s'y étendit de tout son long et fit semblant de dormir. Il se recommanda à Dieu et le supplia de le dérober à tous les regards. Le bédouin s'étant approché de lui et s'étant dressé sur ses étriers pour le saisir, Alaeddin fit une seconde prière semblable à celle qu'il venait de faire. Aussitôt, un scorpion sortit de son trou et piqua si vivement la main du bédouin qu'il se mit à appeler ses camarades et à leur crier qu'il était mort. Les brigands étant accourus et l'ayant trouvé étendu par terre, le remirent sur son cheval et s'informèrent de l'accident qui venait de lui arriver. Ayant appris qu'il avait été piqué par un scorpion, ils craignirent que cet endroit n'en fût rempli et ne songèrent qu'à s'enfuir. Ils emmenèrent promptement leurs camarades et rejoignirent le reste de la troupe qui disparut bientôt. Pour Alaeddin, comme il était accablé de fatigue, il s'endormit profondément sur le mur de la citerne. Cependant, Mahmoud al-Bahri, après le brusque départ d'Alaeddin, avait fait charger ses bagages et avait continué sa route vers Bagdad. Arrivé dans la forêt du Lion, il éprouva un sentiment de joie à la vue des cadavres dont il vit la terre couverte. Comme il approchait du réservoir et de la citerne, sa mule, pressée par la soif, se pencha pour boire. Mais voyant dans l'eau l'ombre d'Alaeddin, elle recula tout effrayée. Mahmoud, ayant levé les yeux, aperçut Alaeddin en chemise et en caleçon qui dormait sur le bord de la citerne. L'ayant réveillé, il lui demanda qui pouvait l'avoir réduit dans un si triste état. Alaeddin, lui ayant dit que c'étaient les Arabes bédouins, le vieux marchand se consola, l'invita à descendre et le fit monter sur une de ses mules. Ils prirent ensemble le chemin de Bagdad, où ils arrivèrent d'assez bonne heure. Mahmoud conduisit Alaeddin à sa maison et le fit entrer dans une salle de bain. Au sortir du bain, il l'introduisit dans un appartement où l'or brillait de tous côtés et qui était meublé d'une manière magnifique. « Les Arabes vous ont tout pris, lui dit-il. Vous avez perdu vos richesses et vos bagages. Mais si vous voulez être docile, je vous donnerai plus de richesses que vous n'en possédiez. » On servit un souper délicat. Mahmoud et Alaeddin se mirent à table. Après le repas, le vieux marchand s'approcha du jeune homme et voulut l'embrasser. Mais celui-ci le repoussa et lui dit avec fermeté. « Je croyais vous avoir fait assez connaître l'horreur que m'inspirent de pareils sentiments pour vous obliger à y renoncer. » Mahmoud, sans se rebuter encore, crut pouvoir profiter de l'état malheureux où était Alaeddin et lui fit entendre que les habillements, la mule, les marchandises qu'il devait lui donner mériteraient de sa part quelque reconnaissance. « Garde tes vêtements, ta mule et tes marchandises, » répondit fièrement Alaeddin, « et fais-moi ouvrir la porte pour que je m'éloigne à jamais de ta présence. » Mahmoud, déconcerté par la résolution d'Alaeddin, lui fit ouvrir les portes. Alaeddin, ayant fait quelques pas dans la rue, se trouva près d'une mosquée et se retira sous le vestibule. Au bout de quelque temps, il aperçut de loin une lumière qui paraissait se diriger vers l'endroit où il était. Il reconnut bientôt que cette lumière était produite par les flambeaux qu'on portait devant deux marchands, dont l'un était un vieillard, d'une figure majestueuse, et l'autre un jeune homme. « Mon cher oncle, disait le jeune homme au vieillard, au nom de Dieu, rendez-moi ma cousine. » « Je vous ai déjà dit plusieurs fois, répondit le vieillard, que cela était impossible. N'avez-vous pas vous-même fait prononcer le divorce ?» Le vieillard, ayant aperçu en ce moment Alaeddin, fut surpris de sa beauté et de sa bonne grâce et le salua d'une manière gracieuse. Alaeddin, lui ayant rendu très poliment son salut, le vieillard lui demanda qui il était. « Je me nomme Alaeddin, répondit-il. Je suis fils de Shemseddin, syndic des marchands du Caire. Ayant fait connaître à mon père l'envie que j'avais de faire le commerce, il m'a fait préparer 50 ballots de marchandises et d'étoffes précieuses et m'a donné 10 000 pièces d'or. J'ai quitté le Caire, et j'ai dirigé ma route vers ces contrées. Mais à peine suis-je entré dans la forêt du Lion, qu'une troupe d'Arabes bédouins est venue attaquer ma petite caravane et m'a enlevé tout ce que je possédais. Je viens d'entrer dans cette ville, ne sachant où passer la nuit. J'ai aperçu cette mosquée, et suis venu me mettre à l'abri sous le vestibule. « Que diriez-vous, dit le vieillard, qui l'avait écouté attentivement, si je vous donnais un habit complet du prix de 1000 pièces d'or, une mule qui en vaudrait autant, et une bourse garnie d'une pareille somme. Quel serait le but d'une pareille générosité? Demanda Alaeddin. Vous voyez ce jeune homme, reprit le vieillard en montrant le jeune marchand, c'est le fils de mon frère dont il était l'idole. J'ai une fille que j'aime aussi avec passion, nommée Zobéide, qui, outre sa grande beauté, possède au suprême degré le talent de la musique. Je l'ai mariée à mon neveu, qui en est devenu passionnément amoureux. mais elle n'a jamais pu le souffrir. Piqué de son indifférence, il a demandé 3 fois le divorce et l'a quitté. Maintenant, il veut la reprendre et me fait supplier par tout le monde de la lui rendre. Je lui ai répété déjà plusieurs fois que cela était impossible tant qu'un autre homme ne l'aurait pas épousée et répudiée. Et je me suis engagée à chercher un étranger pour lui rendre ce service afin qu'on glose moins sur son compte. Puisque le hasard nous a fait vous rencontrer ici et que vous êtes étranger, venez avec nous chez le cadi. Nous dresserons le contrat de votre mariage avec ma fille, vous passerez la nuit avec elle, et demain matin, quand vous l'aurez répudiée, je vous donnerai tout ce que je vous ai promis. » Alaeddin dit en lui-même, « Ne vaut-il pas mieux passer la nuit dans un bon lit, auprès d'une jolie femme, que de la passer dans la rue ou sous un vestibule ?» En conséquence, il accepta la proposition et se rendit avec eux chez le cadi qui, charmé de sa bonne mine, prit aussitôt le plus vif intérêt à ce qui le regarde. « Que voulez-vous ? » dit le cadi en s'adressant au vieillard. « Je veux, répondit celui-ci, marier ma fille avec ce jeune homme, mais à condition qu'il la répudiera demain matin et la rendra à son premier mari. Pour cela, je veux qu'il s'engage à payer demain à ma fille une dot de 50 000 pièces d'or. L'impossibilité où il est de payer cette somme le forcera de remplir la convention. Et alors, je m'engage à lui donner un habillement complet du prix de 1 000 pièces d'or, une mule de la même valeur et une bourse qui renferme une pareille somme. » Comme ils étaient tous d'accord sur ces articles, Al-Qadi passa le contrat et remit entre les mains du père de la jeune fille l'obligation d'Alaïdi. Le vieillard emmena avec lui son nouveau gendre, lui fit présent d'un habillement magnifique et le conduisit à sa maison. Il entra d'abord chez sa fille pour la prévenir et lui dit, en lui montrant l'obligation qu'il avait à la main, qu'il venait de la marier à un jeune homme charmant nommé Alaeddin Aboulchamat. Après lui avoir recommandé de le bien recevoir, il la quitta et se retira dans son appartement. Le cousin de cette jeune dame avait mis dans ses intérêts une vieille intrigante qui allait souvent la voir. Il fut trouver cette vieille et l'engagea à employer quelques ruses pour empêcher sa cousine de recevoir Alaeddin. Car, disait-il, dès qu'elle aura jeté les yeux sur ce beau jeune homme, elle ne voudra plus me revoir. La vieille rassura le cousin et lui promit d'éloigner Alaeddin. En effet, elle fut trouvée sur le champ ce dernier et lui tint ce discours. L'intérêt que m'inspire votre jeunesse et votre bonne mine m'engage à vous donner, mon fils, un conseil dont je désire que vous fassiez votre profit. La jeune dame que vous venez d'épouser a un extérieur qui peut séduire, mais je vous conseille de ne pas l'approcher. Je vous dirai plus. Votre santé court le plus grand risque si vous avez quelque commerce avec elle. Laissez-la, croyez-moi, se coucher seule, et gardez-vous de vouloir partager son lit. Pourquoi donc ? Demanda Alaeddin surpris. Et quel danger ma santé peut-elle courir auprès d'une jeune dame ? Tout son corps, reprit la vieille, est couvert d'une lèpre dégoûtante, qu'elle vous communiquerait infailliblement si vous aviez l'imprudence de la toucher le moins du monde. Je peux bien vous assurer, dit vivement Alaeddin, que je me tiendrai à une telle distance de cette belle qu'elle ne pourra me rien communiquer. La vieille, ayant laissé Alaeddin dans une disposition si favorable à ses intentions, alla trouver la jeune dame et lui fit le même conte qu'elle venait de faire à Alaeddin. « Soyez bien tranquille, ma bonne, lui dit Zobéide, je profiterai de votre avis. Ce monsieur pourra coucher seul s'il veut, et demain matin il aura la complaisance de s'en aller comme il est venu. » La jeune dame, ayant ensuite appelé une de ses esclaves, lui ordonna de mettre le couvert et de faire souper Alaeddin. Après avoir mangé avec appétit, Alaeddin fut s'asseoir dans un coin de l'appartement et lut à haute voix le chapitre du Coran intitulé Yas. La jeune dame, l'ayant écouté attentivement, trouva qu'il avait la voix fort belle et dit en elle-même. La vieille a été vraisemblablement induite en erreur par ceux qui lui ont dit que ce jeune homme était attaqué de la lèpre. Ceux qui sont atteints d'une telle maladie n'ont assurément pas une voix aussi pure et aussi fraîche que la sienne. Tout ce qu'elle est venue me conter à son sujet n'est que mensonge et fausseté. La jeune dame, sentant alors moins d'éloignement pour Alaeddin, voulut l'engager à s'approcher d'elle. Elle prit une guitare fabriquée dans les Indes et, déployant une voix si harmonieuse que les oiseaux mêmes s'arrêtaient au milieu des airs pour l'écouter, elle chanta ces deux vers. J'aime un fan au regard tendre, à la démarche légère, qui tantôt me fuit et tantôt me poursuit. Qu'on est heureuse de posséder un tel fan. Alaeddin, charmé au-delà de toute expression, répondit aussitôt par ses vers. Que j'aime cette taille élégante et ces roses qui brillent sur ses joues. La jeune dame, sensible à ses compliments, leva son voile et laissa voir les traits les plus réguliers et la figure la plus séduisante. Comme Alaeddin paraissait frappée de sa beauté, elle s'avança vers lui. Alaeddin la repoussa doucement. Elle découvrit alors à ses yeux deux bras aussi blancs que la neige, aussi polis que l'ivoire. Alaeddin, de plus en plus transporté, voulut à son tour s'approcher de la jeune dame. Elle le pria de s'éloigner, en lui disant que, comme il était attaqué de la lèpre, son voisinage pouvait être dangereux pour elle. Alaeddin, tout étonné, demanda à la jeune dame quelle était la personne qui avait pu lui faire un pareil conte. « C'est, lui dit-elle, une vieille femme qui vient souvent ici. » « Bon, reprit Alaeddin, c'est sûrement elle qui m'a dit aussi que vous étiez attaqué de la même maladie. » Les deux époux reconnurent alors le stratagème et ne craignirent plus de se donner mutuellement des marques de la tendresse qu'ils avaient conçue l'un pour l'autre. Le lendemain matin, Alaeddin trouva que son bonheur avait passé avec la rapidité de l'oiseau qui fend l'air et se plaignit de la nécessité où il se trouvait de se séparer de son épouse. « Je n'ai plus que quelques moments à jouir de votre présence, lui dit-il les larmes aux yeux. » La jeune dame l'ayant prié de s'expliquer. « Votre père, dit-il, m'a fait contracter une obligation de 50 000 pièces d'or pour votre dot. Si je ne le paie pas, il me fera conduire en prison. Et maintenant, je ne possède pas la moindre partie de cette somme. » « Vous avez cependant des moyens de défense, lui dit Zobéide. « Cela est vrai, répondit Alaeddin. Mais comment faire sans argent ?»« Cela est moins difficile que vous ne pensez, reprit Zobéide. Rassurez-vous et montrez de la fermeté. Prenez toujours ces 100 pièces d'or. Si j'en avais davantage, je vous les offrirais de tout mon cœur. Mais mon père, qui affectionne beaucoup son neveu, m'a pris tout ce que je possédais pour me forcer à retourner avec lui. L'huissier du tribunal va sans doute venir vous trouver de leur part dans le courant de la matinée. Si mon père ou le cadi voulaient vous forcer à prononcer le divorce, demandez-leur hardiment quelle est la religion qui peut contraindre celui qui se marie le soir à répudier sa femme le lendemain matin. En même temps, faites un petit présent à chacun des juges. Approchez-vous respectueusement du cadi, mettez-lui 10 pièces d'or dans la main et soyez sûr qu'ils prendront tous vivement vos intérêts. Si on vous demande pourquoi vous ne voulez pas accepter les 1 000 pièces d'or, la mule et le vêtement stipulé dans le contrat que vous avez passé hier, répondez que chaque cheveu de la tête de votre femme est plus précieux pour vous que 1 000 pièces d'or, que vous avez pris la ferme résolution de ne jamais vous séparer d'elle et que vous ne voulez recevoir ni mule ni vêtements. Et si mon père exigeait le paiement de sa dot, dites-lui que vous vous trouvez trop gêné dans ce moment pour le satisfaire. » Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, ils entendirent frapper assez fort à la porte de la rue. Alaeddin, étant descendu pour ouvrir, aperçut l'huissier du tribunal qui venait l'inviter de la part de son beau-père à se rendre à l'audience. Alaeddin lui demanda, en lui mettant 5 pièces d'or dans la main, s'il y avait une loi qui le forçât à répudier le matin la femme qu'il avait épousée la veille. L'huissier lui répondit qu'il n'existait aucune loi de cette espèce et s'offrit poliment à lui servir de défenseur dans le cas où il ne serait pas en état de se défendre lui-même. Ils se rendirent ensuite tous deux à la salle d'audience. Le cadi exigea d'Alaeddin le paiement de la dot, puisqu'il refusait de répudier la jeune femme. Celui-ci, sans se déconcerter, demanda qu'on lui fît jouir du délai accordé par la loi. Le juge lui fit l'observation que ce délai n'était que de 3 jours. « 3 jours ne me suffiront pas, dit Alaeddin. J'en demande 10. » Comme cette demande était raisonnable, on la lui accorda, mais sous la condition qu'à l'expiration de ce terme, il paierait la dot ou qu'il répudierait sa femme. Alaeddin, ayant accepté l'alternative, sortit de l'audience, se pourvut de viande, de riz, de beurre et des autres provisions nécessaires pour le souper. Étant rentré chez lui, il raconta à la jeune dame ce qui venait de se passer. Zobéide lui dit qu'il en arrivait des choses bien étonnantes dans l'intervalle du soir au matin et qu'en attendant, elle allait donner ses ordres pour le souper. En effet, elle fit bientôt servir une table chargée des mets les plus délicats et des liqueurs les plus exquises. Sur la fin du repas, Alaeddin pria Zobéide de lui chanter un air en s'accompagnant de la guitare. La jeune dame s'empressa de le satisfaire. Elle prit l'instrument et en tira des sons si harmonieux que les murs même de l'appartement parurent sensibles à ses accords. Tout à coup, ils entendirent heurter assez rudement à la porte de la rue. Alaïdine alla ouvrir et aperçut quatre derviches dans une attitude suppliante. Leur ayant demandé ce qu'ils voulaient, un d'entre eux lui répondit. « Seigneur, nous sommes des derviches étrangers dans cette ville, et nous désirerions passer la nuit chez vous. Dès le point du jour, nous reprendrons notre route. Vous attirerez sur vous les bénédictions de Dieu en nous accordant cette faveur. Et peut-être n'en sommes-nous pas indignes, car il n'y a pas un seul d'entre nous qui ne sache par cœur les poèmes et les vers les plus fameux, et qui ne soit amateur passionné de la musique et des instruments. Je suis obligé de consulter quelqu'un sur la demande que vous me faites, leur dit Alaïdine. » Et sur le champ, il vint informer Zobéide de ce qui se passait. Zobéide lui dit de les laisser entrer. Alaïdine les ayant introduits, il les fit asseoir et les traita avec beaucoup de politesse. « Seigneur, lui dirent-ils, notre état ne nous empêche pas de jouir des plaisirs de la société, et il ne faut pas que nous vous interrompions dans vos plaisirs. En passant auprès de votre maison, une musique délicieuse se faisait entendre, et quand nous sommes entrés, elle a cessé tout à coup. Oserions-nous vous demander si la personne qui l'exécutait est une esclave blanche ou noire, ou quelque jeune dame de distinction ?»« C'est mon épouse, répondit Alaïdine. » Aussitôt, il leur raconta son aventure, la manière dont son beau-père lui avait fait contracter une obligation de 50 000 pièces d'or, et l'embarras où il se trouvait pour les payer, n'ayant pu obtenir qu'un délai de 10 jours. « N'ayez aucune inquiétude, lui dit un des derviches. Je suis le chef de 40 derviches sur lesquels j'exerce une puissance absolue. Je les engagerai facilement à me procurer les 50 000 pièces d'or dont vous avez besoin. Je vous les remettrai, et vous pourrez remplir l'engagement que vous avez contracté avec votre beau-père. Mais si c'était un effet de votre complaisance de nous faire entendre la voix de la jeune dame, vous nous procureriez une jouissance bien douce, car la musique est, pour de certaines personnes, aussi agréable que les mets les plus exquis, et pour d'autres, c'est un délassement qu'ils préfèrent à tout. » Le derviche, qui faisait de si belles promesses, était bien en état de les réaliser, car c'était le calife Harun al-Rachid lui-même, accompagné du vizir Jafar, du cheikh Mohammed Abu Nawas et de Mansour, exécuteur de ses jugements. Le calife, ayant ce soir-là l'esprit fatigué, avait fait venir ses personnages pour se distraire et parcourir avec eux les rues de Bagdad. Ils s'étaient déguisés en derviches, et en passant auprès de la maison d'Alaïdine, ils avaient entendu l'air qu'exécutait Zobéide. Le calife, enchanté de la beauté de la voix et des sons harmonieux de l'instrument, avait été curieux de connaître et d'entendre à loisir la personne qui possédait ainsi au degré le talent de la musique. Alaïdine, ayant consenti à la demande des derviches, ils passèrent toute la nuit à s'amuser et à converser de la manière la plus spirituelle. Le lendemain matin, le calife glissa sous le coussin sur lequel il était assis une bourse de 100 pièces d'or et se retira avec ses compagnons. Zobéide, ayant aperçu en levant le coussin la bourse qui était dessous, la porta à son mari et lui dit qu'elle soupçonnait un des derviches de l'avoir glissé, à leur insu, avant de s'en aller, sous le coussin où il venait de le trouver. Alaïdine la prit et fut acheter la viande, le riz et les autres provisions nécessaires pour passer cette seconde soirée. Quand on eut allumé les bougies, il dit à sa femme qu'il croyait que les derviches lui en avaient imposé et qu'il ne lui apporterait pas les 50 000 pièces d'or. Pendant qu'il parlait encore, les derviches vinrent frapper à la porte. Zobéide lui dit d'aller ouvrir. Et lorsqu'il les eut fait monter dans son appartement, il leur demanda s'ils venaient remplir la promesse qu'il lui avait faite. « Nos confrères, lui dirent les derviches, n'ont pas voulu se prêter à ce que nous désirions. Mais ne craignez rien. Demain, dans la matinée, nous ferons une opération de chimie pour nous procurer cet argent. Laissez-nous seulement jouir ce soir du plaisir d'entendre chanter votre épouse, car la complaisance qu'elle a eue pour nous hier nous fait désirer vivement de l'entendre encore. » Zobéide, ayant pris sa guitare, s'empressa de les satisfaire et les charma par les sons qu'elle tira de cet instrument. Ils passèrent la nuit dans la joie et le plaisir, et au point du jour, le calife ayant mis une seconde bourse de 100 pièces d'or sous le coussin, s'en retourna au palais avec ses compagnons. Les derviches continuèrent à venir ainsi passer la soirée chez Alaïdine, et le calife ne manqua jamais de déposer une bourse de 100 pièces d'or sous le coussin. Le dixième jour, le calife envoya chercher un des plus fameux marchands de Bagdad et lui ordonna de préparer sur le champ 50 ballots des plus riches étoffes et des marchandises qui viennent ordinairement d'Égypte, et de mettre sur chaque ballot une étiquette qui indiqua que le prix en était de 1000 pièces d'or. Ce prince manda ensuite un de ses esclaves auquel il fit remettre un vêtement magnifique et une cuvette d'or avec son équerre. Il lui confia le soin des 50 ballots et lui donna en même temps une lettre adressée à Alaeddin, en lui commandant de se rendre avec les ballots dans une rue qu'il lui désigna, et de s'informer où était la maison du syndic des marchands, qui était en même temps le beau-père d'Alaeddin. « Quand tu auras trouvé la maison, ajouta le calife, tu demanderas au syndic où demeure le seigneur Alaeddin, ton maître. » Le calife informa ensuite l'esclave des autres choses qu'il devait dire pour bien jouer son rôle et s'acquitter habilement de sa commission. Ce jour-là même, le cousin de Zobéide était venu trouver le père de cette jeune dame et l'avait invité à se rendre avec lui chez Alaeddin pour le forcer à répudier sa cousine. Comme ils s'y rendaient tous deux, ils aperçurent un esclave monté sur une mule qui conduisait 50 autres mules chargées de ballots d'étoffes riches et précieuses. Ayant demandé à l'esclave pour qui étaient ces ballots, il leur répondit qu'ils appartenaient à son maître, Alaeddin Aboul Shamat, et aussitôt il ajouta. Le père de mon maître lui avait donné des marchandises et l'avait envoyé à Bagdad, mais des voleurs arabes l'ont attaqué dans la forêt du Lion, et lui ont enlevé tout ce qu'il possédait. Cette funeste nouvelle étant parvenue à son père, il m'a envoyé vers lui avec ses 50 mules et m'a chargé de lui remettre une somme de 50 000 pièces d'or, un paquet qui renferme un habillement complet, aussi riche que celui dont les voleurs l'ont dépouillé, une pelisse de martre zibeline et une cuvette d'or avec son équerre. Le père de la jeune dame, étonné de cette rencontre et émerveillé du détail de tant de richesses, s'empressa de dire à l'esclave qu'il était le beau-père d'Alaeddin et lui proposa de le conduire à la maison qu'il cherchait. Dans ce moment, Alaeddin, renfermé avec son épouse, se livrait aux plus cruelles réflexions et était en proie au plus violent désespoir. Ayant entendu tout à coup un grand bruit à la porte de la rue, il s'écria. « Ma chère Zobéide, c'est assurément ton père qui envoie ici les archers et les gens de justice pour me forcer à me séparer de toi. »« Voyez, lui dit Zobéide, quels peuvent être ces gens-là » Alaeddin descendit les degrés à pas lents et ouvrit tristement la porte. Il fut d'abord étonné de voir son beau-père à pied, accompagné d'un esclave abyssin, monté sur une mule. Mais il le fut encore bien davantage quand cet esclave, dont la figure, quoique noire, ne laissait pas d'avoir quelque chose d'agréable, sautant légèrement à terre, vint lui baiser la main. Que veux-tu? Lui demanda Alaeddin. Seigneur, répondit l'esclave, je suis le serviteur de mon maître Alaeddin Aboul Shamat, fils de Shemseddin, syndic des marchands du Caire. Son père m'a envoyé vers lui avec cette lettre de créance. En même temps, il présenta une lettre à Alaeddin, qu'il a reçue avec empressement, l'ouvrit et lut ce qui suit. Shemseddin, syndic des marchands du Caire, à son fils bien-aimé, Alaeddin Aboul Shamat. Salut. Je viens d'apprendre, mon cher fils, la funeste nouvelle du combat où tous tes gens ont péri, et dans lequel on t'a ravi tout ce que tu possédais. Mais console-toi, je t'envoie 50 autres ballots des plus riches étoffes de mon magasin, une mule, une pelisse de martre zibeline, et une cuvette d'or avec son aiguille. Bannis donc de ton cœur les inquiétudes que tu peux avoir conçues. La richesse qu'on t'a enlevée t'ont servi de rançon. Ta mère et tous les gens de la maison jouissent d'une parfaite santé et te font bien leurs compliments. J'ai appris aussi, mon cher fils, qu'on venait de te faire épouser une jeune dame nommée Zobéide, habile musicienne, à condition que tu la répudierais et que, dans le dessein seulement de t'y contraindre, on t'avait fait contracter une obligation de 50 000 pièces d'or pour la dot. J'ai confié cette somme à ton fidèle esclave Selim, qui doit te la remettre entre les mains, ainsi que les 50 ballots de marchandises. Shemseddin. Après avoir lu cette lettre, Alaeddin se tourna vers son beau-père et lui dit « Prenez les 50 000 pièces d'or stipulées pour la dot de Zobéide et négociez à votre profit les 50 ballots de marchandises en me tenant compte seulement du capital. » Le père de Zobéide, sensible à la générosité d'Alaeddin, ne voulut pas néanmoins en profiter. « Je ne puis rien accepter de ce que vous m'offrez, lui dit-il. Quant à la dot, elle appartient à ma fille, et vous pouvez en faire tous les deux ce que bon vous semblera. » comme Alaeddin et son beau-père étaient occupés à faire entrer les ballots, Zobéide demanda à son père à qui ils appartenaient. « Ma chère fille, répondit le vieillard, ils appartiennent à Alaeddin, ton époux. Son père vient de les lui envoyer pour le dédommager de la perte de ceux que les Arabes lui ont enlevés. Il lui a envoyé en outre une somme de 50 000 pièces d'or, un paquet renfermant des objets précieux, une pelisse de martre zibeline, une mule et une cuvette d'or avec son aiguière de même métal. Vous pouvez tous les deux disposer de ces objets à votre fantaisie, et la dot en particulier est entièrement à ta disposition. » Alaeddin ouvrit aussitôt la cassette et en tira les 50 000 pièces d'or qu'il remit à son épouse. Le cousin de la jeune dame, stupéfait et confondu de ce qui venait d'arriver, et voyant toutes ses espérances renversées, demanda avec humeur à son oncle s'il n'était plus disposé à forcer Alaeddin à lui rendre sa femme. « C'est maintenant impossible, répondit le vieillard, car la loi est tout en faveur d'Alaeddin, qui, comme vous le voyez, a rempli ses engagements. » Le cousin, atterré par cette réponse, s'en retourna chez lui, le désespoir dans l'âme. Il tomba bientôt malade et mourut de chagrin au bout de quelque temps. Après avoir fait entrer les ballots, Alaeddin alla faire les provisions nécessaires pour un repas semblable à ceux des soirées précédentes. Étant de retour, il dit à Zobéide, « Je ne m'étais pas trompé dans mes conjectures. Ces derviches sont des imposteurs qui m'ont fait des promesses en l'air. Vous voyez comment ils ont tenu leur parole. » « Cessez d'avoir une aussi mauvaise opinion d'eux, lui répondit sa femme. Vous êtes le fils du syndic des marchands du Caire, et cependant, hier encore, vous ne possédiez pas la plus petite pièce de monnaie. Dans quel embarras ces derviches, pauvres comme ils sont, ne doivent-ils pas être pour se procurer 50 000 pièces d'or ?»« Dieu merci, nous n'avons plus besoin d'eux, reprit Alaeddin. Ils n'ont qu'à venir maintenant, je leur fermerai la porte au nez. »« Pourquoi donc ?» dit Zobéide. « Je suis persuadé, au contraire, que c'est leur présence qui nous a porté bonheur. Et chaque soir, ne glissait-il pas à notre insu une bourse de 100 pièces d'or sous un coussin ?» À la fin du jour, quand les bougies furent allumées, Alaeddin pria son épouse de prendre son luth et de jouer un de ses airs favoris. Zobéide, qui se plaisait à prévenir ses moindres désirs, s'empressa de le satisfaire. Elle accorda son instrument et se mit à chanter. Dans ce moment, on frappa assez rudement à la porte de la rue. Zobéide pria son mari d'aller voir ce que c'était. Lorsqu'il eut ouvert et qu'il eut aperçu les derviches, « Ah ! » s'écria-t-il en riant, « Entrez, messieurs les imposteurs, entrez !» Les derviches s'étant assis, Alaeddin fit servir la collation. « Seigneur, lui dit l'un d'eux, l'impossibilité où nous nous sommes trouvés de faire ce que nous voulions n'empêche pas que nous ne prenions le plus vif intérêt à ce qui vous regarde. Racontez-nous donc de grâce ce qui vous est arrivé avec votre beau-père. » « Dieu, répondit Alaeddin, nous a comblés de plus de faveurs que nous n'avions osé l'espérer. » « Nous en sommes charmés, reprit le faux derviche, car nous étions fort inquiets par rapport à vous, et vous devez être persuadé que si nous avions pu rassembler la somme que nous vous avions promise, nous l'aurions fait de tout notre cœur. » « Dieu m'a procuré les moyens de me tirer d'affaire, dit Alaeddin. Mon père vient de m'envoyer 50 000 pièces d'or et 50 ballots des étoffes les plus précieuses, chacun de la valeur de 1 000 pièces d'or, comme le porte l'étiquette qui est dessus. Il m'a aussi envoyé un habillement complet, fort riche, une pelisse de martre zibeline, une mule, un esclave et une cuvette d'or avec son aiguille. En outre, je viens de me réconcilier avec mon beau-père, et ce qui me le comble à ma félicité, c'est de posséder une femme charmante, dont je suis tendrement émue. Vous voyez donc que Dieu ne m'a pas abandonné dans cet instant critique. » Alaeddin, ayant achevé ses paroles, le calife fit semblant d'avoir besoin de sortir un moment. Le vizir Jaffar, se penchant alors vers Alaeddin, l'avertit de ne rien dire qui pût blesser ses hôtes, et surtout celui qui venait de sortir. Alaeddin lui demanda pourquoi on lui donnait un pareil avis. « Il me semble, ajouta-t-il, que je vous ai témoigné à tous autant d'égards et de politesse que j'en pourrais témoigner au calife. » La personne qui vient de sortir auprès de Jaffar est le calife lui-même. Je suis le vizir Jaffar, et l'un des deux personnages que vous voyez à côté de moi est le cheikh Mohammed Abu Nawas, et l'autre est Mansour, exécuteur des jugements de sa majesté. Alaeddin parut fort étonné de cette aventure et ne savait que penser. « Seigneur Alaeddin, poursuivit le vizir, faites-moi le plaisir de réfléchir un moment et de me dire combien il y a de journées de chemin entre le Caire et Bagdad. » Alaeddin répondit qu'il y en avait 45.
« Comment donc ? » reprit Jaffar. « Vos marchandises ont-elles pu faire ce trajet en 10 jours ?
Comment est-il possible que votre père ait été informé de votre désastre, qu'il ait fait emballer les étoffes que vous avez reçues et qu'elles vous soient parvenues dans l'espace de 10 jours lorsqu'il en faut 45 pour les apporter seulement du Caire ici ?»«
Vous avez raison, Seigneur, » s'écria Laïdine. « Mon erreur était grossière. Je me perds maintenant dans tout ceci et je n'y connais rien. »
Tout cela, dit le vizir, s'est fait par ordre du souverain commandeur des croyants. C'est lui-même qui vous a fait tous ces présents, par l'affection extrême qu'il a conçue pour vous.
Le calife, étant rentré sur ses entrefaites, Alaeddin se jeta à ses pieds et lui témoigna sa vive reconnaissance.
« Dieu prolonge les jours de votre majesté, s'écria-t-il, et répande à jamais ses bienfaits sur elle pour la générosité dont elle a usé envers son esclave. »
Le calife, ayant fait relever Alaeddin, le pria de lui faire entendre encore une fois la voix de Zobéide, pour le récompenser de ce qu'il venait de faire pour eux. Zobéide s'empressa de répondre à une invitation aussi flatteuse. Elle prit son luth et chanta d'une manière si ravissante que le calife ne pouvait se lasser de l'entendre. Il passa une partie de la nuit dans cet amusement, et il invita Alaeddin, en se retirant, à se rendre le lendemain au divan. Alaeddin se rendit donc le lendemain au divan, accompagné de 10 esclaves qui portaient chacun sur leur tête un bassin rempli des objets les plus précieux. En entrant, il se prosterna le visage contre terre, et s'étant relevé, il adressa un compliment très flatteur au calife, qui était assis sur son trône, environné de toute sa cour. Il le supplia ensuite d'accepter les présents qu'il venait lui offrir. Le calife fit à Alaeddin l'accueil le plus gracieux et reçut avec plaisir ce qu'il lui présentait. Il le fit revêtir d'une robe d'honneur, le nomma sur le champ syndic des marchands de Bagdad et lui fit prendre place au divan en cette qualité. Dans ce moment, le beau-père d'Alaeddin, qui était auparavant revêtu de cette charge, étant entré dans la salle et ayant aperçu son gendre assis à sa place et couvert d'une robe d'honneur, prit la liberté de demander au calife ce que cela signifiait.
Je viens de nommer Alaeddin, répondit ce prince, syndic des marchands. Les charges et les dignités n'appartiennent pas exclusivement et pour toujours à ceux qui en sont revêtus, et j'ai jugé à propos de vous déposer.
Votre majesté, très bien, dit le vieillard. Au surplus, l'honneur qu'elle vient de faire à mon gendre rejaillit sur moi, et c'est Dieu même qui a dirigé son choix. Il élève, quand il lui plaît, les petits aux plus grands honneurs. Combien de fois n'a-t-on pas vu les grands venir baiser la main de celui qu'il dédaignait la veille ?
Le calife ayant confirmé par un ordre express l'élection d'Alaeddin, et ayant remis cet ordre entre les mains du lieutenant de police pour le faire exécuter, celui-ci le donna à un de ses officiers, qui publia dans le divan que désormais on eut à reconnaître Alaeddin Abulshamat comme syndic de marchands, et à lui rendre les honneurs et l'obéissance qu'on lui devait en cette qualité. Vers la fin du jour, lorsque le divan fut congédié, le lieutenant de police, précédé d'un crieur et marchant devant Alaeddin, parcourut en grande pompe les rues de Bagdad. Le crieur publiait dans tous les carrefours que le calife venait de nommer syndic des marchands le seigneur Alaeddin Abulshamat et que lui seul, maintenant, pouvait remplir les fonctions de cette place. Le lendemain, Alaeddin leva une superbe boutique à la tête de laquelle il mit un de ses esclaves qu'il chargea des détails du commerce. Pour lui, il ne s'occupait que du soin d'assister régulièrement au divan. Un jour qu'il venait de s'y rendre, comme à son ordinaire, un des officiers du calife vint annoncer à ce prince la mort soudaine d'un de ses conseillers intimes. Le calife envoya aussitôt chercher Alaeddin, le fit revêtir d'un cafetan et lui donna la place de celui qui venait de mourir avec une pension de 1000 pièces d'or. Alaeddin, attaché de plus près à la personne du calife, s'avança de plus en plus dans ses bonnes grâces. Un jour qu'il était au divan, un émir, tenant une épée à la main, vint annoncer au calife la mort du chef du conseil suprême des 60. Ce prince fit aussitôt revêtir Alaeddin d'un superbe cafetan et le nomma chef de la cour des 60. Comme le personnage qui venait de mourir ne laissait après lui ni femme ni enfant, Alaeddin, par ordre du calife, hérita de tous ses esclaves et de tous ses trésors, à condition seulement qu'il prendrait soin de ses funérailles. Le calife ayant agité son mouchoir, le divan se sépara. En sortant de la salle du divan, Alaeddin, trouva une compagnie de 40 hommes, les gardes du corps du prince, qui se disposaient à l'escorter par honneur, et dont le chef, nommé Ahmed al-Danaf, vint se placer à ses côtés. Alaeddin, qui connaissait le pouvoir de cet officier et la confiance que le calife avait en lui, profita de cette occasion pour l'engager à se lier étroitement ensemble et à vouloir bien le regarder comme son fils. Ahmed al-Danaf, qui s'était senti de l'inclination et de l'attachement pour Alaeddin, du moment qu'il l'avait vu paraître à la cour, fut flatté de sa demande et il consentit volontiers. Il lui promit même, pour lui donner une marque éclatante de l'intérêt qu'il prenait à lui, de le faire escorter par ses soldats toutes les fois qu'il se rendrait au divan ou qu'il en sortirait. Alaeddin, comblé d'honneurs à la cour du calife, se rendit tous les jours près de ce prince, avec lequel il vivait dans la plus étroite intimité. Un soir, qu'étant rentré chez lui, ayant congédié les soldats d'Ahmed al-Danaf, il était assis près de son épouse, elle le quitta, en disant qu'elle allait revenir dans l'instant. Peu après, un cri perçant se fit entendre. Alaeddin sortit pour voir d'où partait ce cri et trouva sa chère Zobéide étendue par terre. Il s'approcha d'elle pour la relever, mais quelles furent sa surprise et son horreur quand il s'aperçut qu'elle était déjà privée de sentiments.